piqué. On était aux États-Unis mercredi après-midi et son pied s'est enflé. Il y a eu une infection en fait. Et alors vous avez des urgences qui prennent le temps ici. Hein. Oh là là, on est arrivé à 7 heures, on est parti à 1 heure et demie. On était crevés nous, hein, je peux vous dire. Hein. Oh là là. Alors c'était bon pour ma sanctification personnelle, la patience. Hein, mais ouf. Qu'est-ce que j'ai bu comme jus d'orange et comme je vous dis pas. Et puis je me suis lavé la main plusieurs fois. Maintenant vous avez des appareils. Bon bref. Et oui, Louis a chanté ce merveilleux chant. On a déjà tout un message ce matin. Hein. C'est le plus beau des messages dans le sens de à la veille d'une campagne d'évangélisation. Et le Seigneur a permis. Moi, je veux louer le Seigneur ce matin parce qu'il a permis que nous soyons là. Alors pour nous c'est un miracle. C'est un miracle parce que Daniel est à Grenoble, David, bon maintenant, il vient de marier à Londres, mais Philippe est à Los Angeles pour ses études en théologie, Jean à Moody pour ses études en théologie, et donc Luc et Christina à la maison. Mais de venir tous ensemble à Québec, quel miracle! C'est une joie d'être avec vous. Et puis je dois vous dire, vous êtes beau visage ce matin. Oui, vous pouvez sourire, Dieu vous aime. Oui, vous avez le droit de sourire dans le Seigneur. C'est le peuple de Dieu, on peut se réjouir ensemble. Merci René. Voilà. Alors Serge Lagacé m'a fait la remarque qu'on devrait changer la photo là, sur le bulletin. Enfin, vous dire que le fait qu'on soit ici ensemble, c'est vraiment une chose extraordinaire. C'est un rêve que nous avions depuis que nous avons quitté le Québec en 1995. On a toujours rêvé un jour de pouvoir revenir en famille. Puis on n'est pas venu seul, il y a aussi Sophie, un membre de notre église, Patrick derrière, Benjamin. En fait, on est 13 de Toulouse à venir aider pour la campagne d'évangélisation. Alors, on va vous voir. Hein. Alors, ce soir, brièvement, ce soir, on va présenter un DVD de la campagne d'évangélisation 2007, parce que vous nous soutenez, on doit vous faire un compte rendu, hein, René. On doit vous montrer les belles choses que le Seigneur a fait. Vous avez prié pour nous, vous nous soutenez en tant qu'Église. Ben, c'est un bon investissement de soutenir des missionnaires en France. Le terrain est dur, mais comme a dit Alain Chouaquier, la France du béton, mais l'Évangile a dynamite. Alors, priez que la mèche s'enflamme et que les cœurs durs éclatent et que le Seigneur soit glorifié. Et on aura des partages. Philippe a fait un CD, c'est au fond de la salle d'ailleurs. Si vous voulez acheter son CD, il a composé 7 des pièces musicales ou chansons qui sont sur le CD. Et chacun de la famille va donner un petit témoignage. Comme ça, vous aurez une perspective de la famille. Alors, cet après-midi. Hein? Voilà. Vous ne m'avez pas dit oui, vous me troublez ce matin là. Oui, à cet après-midi. Attendez, je vais entendre plus fort, moi. Hein. Je viens de loin, là, hein. Je peux vous dire, ça a pris des heures pour venir jusqu'ici. Hein. Alors, vous serez là cet après-midi? Ah, merci, vous faites du bien, là. Hein. OK. Alors, pour différentes circonstances, j'ai choisi ce message. Je suis désolé pour ceux qui l'ont entendu dimanche dernier. Mais nous avons une tendance, frères et sœurs bien-aimés, à faire une distinction dans l'Église entre, voilà, il est chrétien. Il est sauvé. Ah, gloire à Dieu. Hein. Mais lui, c'est un disciple. C'est un disciple. Est-ce que le Nouveau Testament fait cette distinction entre deux catégories de chrétiens dans l'Église? Ceux qui sont chrétiens, oh, gloire à Dieu, ils sont sauvés quand même. Hein, c'est beau d'avoir la vie éternelle, non? Et puis, il y a les disciples, ceux qui servent dans l'Église. Ceux qui sont motivés, ceux qui entraînent, ceux qui sont des modèles, ceux qui se donnent, qui donnent sans cesse et qui sont des gens que l'on suit parce qu'on sait où est-ce qu'ils s'en vont. Ils sont enseignables et en plus, ils enseignent les autres. Alors, on dit, voilà, ça c'est un disciple, c'est un vrai disciple. Mais vous savez, Jésus-Christ n'a jamais fait sa distinction dans son enseignement de penser qu'il y aurait deux catégories parmi ses enfants, les chrétiens et puis les disciples. Alors, nous devons rectifier cela. D'ailleurs, le mot chrétien, christianos, dans le grec, a été donné, certainement vous le savez, pour la première fois, à Antioche. Et ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens, ce sont des non-chrétiens pour faire la distinction avec ceux qui suivaient le Messie, les Juifs qui attendaient le Messia, le Messie. Ce sont des inconvertis, si je peux dire ainsi, des païens, des goy, comme on les appelait, qui ont appelé, enfin les juifs, excusez, j'ai dit, qui ont appelé ces païens convertis, des chrétiens, comme Christ, des petits Christ. Alors, ça m'interpelle et je vous pose une question, comme pour moi-même, si ce mot-là n'existait pas aujourd'hui, est-ce que les gens qui nous voient vivre à côté de chez nous, nos voisins, dans notre milieu de travail, au sein de notre famille, est-ce qu'ils, parce qu'on se dit ceux qui sont de Jésus-Christ, si le mot n'existait pas, est-ce qu'ils nous définiraient comme des chrétiens, des petits Christ, des comme Christ? Parce que notre vie ressemble à l'enseignement de Jésus-Christ. Ce qui est terrible, c'est quand le chrétien ne vit pas ce que Jésus donne comme enseignement, ne vit pas ce que le Seigneur lui demande de vivre. Alors là, il y a une contradiction qui fait que, il n'y a pas de fruit. Mais un disciple que l'on retrouve, je ne sais plus, 296 fois, il me semble, dans le Nouveau Testament ou quelque chose comme ça, alors c'est le mot que les disciples sont donnés, sont des adeptes de Christ. C'est quelqu'un qui est un élève, qui est une personne qui est prête à être enseignée, parce qu'il a un maître. Et ce matin, nous allons regarder ensemble une caractéristique de ce qu'est un disciple. Comme ça, nous n'aurons pas de doute. Alors, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, j'ai souligné, moi, dans ma Bible, qu'il y a en fait 8 caractéristiques que le Seigneur Jésus a laissées. Par exemple, il a dit qu'il fallait demeurer dans sa parole, que le disciple demeurerait, on va aller dans le texte, c'est dans un instant, je ne veux pas vous perdre là, que le disciple demeure dans la parole. Les disciples sont connus, voyez, comme ils s'aiment les uns les autres. Aussi, le Seigneur a dit qu'il fallait aimer Jésus-Christ par-dessus tout, qu'il fallait renoncer à tout ce que l'on possède. Et dans le texte que nous allons voir à l'instant, alors je vous invite, bien-aimés, à regarder Marc, chapitre 4, et au verset 8, nous allons regarder au moins une caractéristique. On ne peut pas regarder les 8, ni les 3 mentionnés dans ce texte, mais nous allons regarder au moins une. Il est écrit en Marc, chapitre 8, verset 34. Marc, chapitre 8, et verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous nous humilions devant toi, ensemble, pour écouter ta parole afin de savoir ce que toi tu as à nous dire, Seigneur Jésus. Que nous ne partions pas comme des auditeurs oublieux qui, après avoir écouté la parole, l'oublient et ne s'y soumettent pas. Mais nous te prions dans ta grâce que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs profondément et nous laisser jauger, juger, afin de savoir si nous sommes dans les voies de l'Éternel, comme disait le psalmiste, ô Dieu, sonde mon cœur et montre-moi si je suis sur les voies de l'éternité. Tes voies, Seigneur Jésus, tes traces. Donne-nous, Seigneur, en tant que petit Christ, de te ressembler, d'être à l'image de ta personnalité, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, de ta paix, de ta joie. Oh, nous, souvent, nous sommes en faillite, mais Seigneur, merci de ta grâce qui nous relève. Donne-nous de vivre cette vie afin de glorifier ton nom et afin d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre et de te glorifier afin que de nombreuses personnes s'ajoutent au royaume de Dieu et entrent dans l'éternité pour toujours. Ô Seigneur, fais de nous tes enfants qui te ressemblent. Amen. Alors, ici, dans le texte que nous avons lu, il y a au moins un que j'aimerais souligner, c'est renoncer à soi-même. Parce que c'est parfois mal compris. Il y a des gens qui pensent que renoncer à soi-même, c'est se mortifier. c'est se faire souffrir. Et je ne sais pas si vous avez lu dans des écrits, mais au Moyen-Âge, il y avait des gens qui se promenaient, peut-être en France seulement, je ne sais pas, mais j'ai lu dans un livre d'histoire, qui se promenaient, ils se flagellaient pour essayer d'expier leurs péchés. Et aux Philippines, chaque année, il y a des gens qui se font crucifier en pensant qu'ils doivent souffrir les souffrances de Christ et ainsi gagner la faveur de Dieu, hein, s'il est possible, parce qu'ils ne savent jamais pour sûr s'ils l'ont gagné. Alors ils se font descendre de la croix juste au moment presque de la mort parce qu'ils pensent qu'il faut souffrir pour plaire à Dieu. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas biblique. Malheureusement pour eux, ils se trompent, ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Et ça ne les sauve pas du tout. Qu'est-ce que c'est que renoncer à soi-même selon le plan de Dieu, frères et sœurs? D'abord, nous allons voir pourquoi est-ce que le disciple devrait-il renoncer à lui-même. Je vous invite à tourner un premier texte en 1 Corinthiens, chapitre 6, l'apôtre Paul de nous dire clairement la raison pour laquelle nous devrions renoncer à nous-mêmes. Il est écrit en 1 Corinthiens, chapitre 6, et versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous étions vendus sur le marché de l'esclavage. Vous savez, à cette époque-là, notamment à Corinthe, il y avait vraisemblablement plus de 50% de la population qui était esclave. Et il y avait le marché des esclaves où on pouvait acheter un esclave pour soi-même ou le libérer. Payer une rançon, le libérer et lui donner sa liberté. Eh bien, c'est la même chose pour nous qui avons été sauvés. Nous étions esclaves de notre péché, nous étions dans les ténèbres, nous étions liés au diable, et Dieu a trouvé bon de passer au marché de notre esclavage et de nous libérer parce que quelqu'un d'autre a payé la rançon, c'est Jésus-Christ. Et alors, en retour de son amour, nous lui avons donné notre vie. Et nous avons commencé à l'aimer dans une relation d'amour qui durera jusque dans l'éternité. Et nous voulons le suivre. Et nous voulons donner notre vie au Seigneur Jésus. Et heureusement, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que d'ailleurs, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre corps ne nous appartient plus. Ma vie ne m'appartient pas parce que j'appartiens à un autre. Libéré, volontairement, je me rends esclave de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un jour, nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Et c'est bon de se rappeler que oui, nous pouvons mettre toute notre confiance en celui qui nous demande de donner notre vie, parce que quand il la prend, il la multiplie. Parfois, nous pensons garder notre tout pour vivre notre propre vie. Mais en fait, le rien que nous sommes, si nous le donnons au Seigneur, comme les pains et les poissons, il les brise, il les multiplie, et il en tire gloire. C'est le miracle du rien que nous sommes, dans la mesure où nous ne sommes rien à nos propres yeux, afin qu'il croisse et que je diminue. C'est le plan de Dieu, car même parfois, le croyant a des brisements intérieurs, par différentes circonstances ou souffrances, pour qu'il réalise qu'en fait, il dépend entièrement de son Dieu. D'ailleurs, si nous lisons tout l'évangile de Jean, souligné dans l'évangile de Jean, le nombre de fois où Jésus dit qu'il dépend du Père. Moi, c'est une chose qui m'a fait énormément réfléchir, de voir que le Fils de Dieu, tout puissant, a constamment dans sa vie cherché la volonté pour accomplir la volonté de Dieu son Père et dépendre de lui. Quel exemple de don total, de consécration totale et absolue envers Dieu. Alors si le Fils de Dieu, frères et sœurs, a donné sa vie sur la terre pour dépendre de Dieu le Père, à combien plus forte raison nous, sauvés par grâce, devrions-nous apprendre à donner notre vie à dépendre de Jésus-Christ? Jusqu'à quel point dépendons-nous de lui dans nos vies et dans toutes circonstances et dans chaque compartiment de notre vie. Que Dieu nous fasse grâce. L'apôtre Paul, c'est un grand logicien d'ailleurs, il a des grandes phrases très cartésienne, je dirais. Mais il a fait un calcul. Il a fait un calcul dans sa vie, notamment en Philippiens, il dit qu'il a renoncé à tout à cause de Jésus-Christ et qu'il regarde tout son passé comme littéralement de la boue, des ordures. Des ordures. Autrement dit, il était pharisien, il était très instruit, certainement issu d'une famille aisée. Eh bien, il a dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il regarde tout cela comme la boue. C'est le vrai regard éternel à poser sur nos vies. Comment voyons-nous nos vies? Est-ce que vraiment nous les regardons au travers de la personne de Jésus-Christ? Est-ce que ce que nous possédons, ce que nous sommes, ce que nous faisons, est-ce que c'est vraiment sous le regard toujours de la personne de Jésus-Christ? Vous savez, c'est dans les grandes choses comme dans les toutes petites choses. Dieu sait tout de nous. Et merci Seigneur pour cela. Alors l'apôtre Paul, après avoir manifesté glorieusement, par inspiré bien sûr, mais décrit le plan de Dieu, l'épître aux Romains se divise comme suit. Les trois premiers chapitres, à peu près, hein, l'homme est perdu et c'est universel. À partir du chapitre 3, un peu plus loin, verset 23, bon, la justification par la foi commence, chapitre 4, chapitre 5, nous sommes justifiés par la foi. On ne peut pas être sauvé par soi-même. Personne ne peut être sauvé par soi-même. Essayez de mettre vos mains sous vos pieds, vous soulevez, vous n'y arriverez pas. On ne peut pas se sauver soi-même. C'est la justification par la foi. Chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, nous sommes maintenant sanctifiés, nous marchons par le Saint-Esprit. Chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, le plan de Dieu pour Israël. Mais tout ça concerne le plan du salut de Dieu pour le monde, pour Israël, pour l'avenir. Et au chapitre 12, mais Paul dit, c'est logique maintenant, ayant découvert le plan de Dieu pour vous et le salut, et la beauté du salut de Dieu, je vous exhorte d'en faire par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, ce qui sera agréable à Dieu, hein, et ce qui sera un culte raisonnable. Logikos dans le grec, qui vient donner le mot logique. Logos, ce qui est logique, c'est la parole. Et quand Paul nous exhorte, nous instruit à donner notre être, c'est tout notre être. Voilà, voilà mes yeux. Est-ce que j'ai donné mes yeux au Seigneur? Est-ce que mes yeux voient ce que Jésus veut que je voie? Est-ce que mes mains font ce que Jésus voudrait que je fasse? Est-ce que mes pieds m'amènent là où Jésus veut m'amener? Parfois, nous allons à l'endroit où Jésus n'est plus là. Est-ce que nos oreilles entendent seulement ce que Jésus veut que nous entendions? Donner son corps, c'est donner tout son être. Bien sûr, c'est une illustration physique, mais c'est donner tout son être, son essence, son être tout entier. Voilà, Seigneur, ma vie. Le psalmiste disait, non, c'est dans les Proverbes, c'est Salomon qui a écrit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il lui avait donné, tout donné, absolument tout. Ou vous gardez quelque chose, ou on garde quelque chose dans notre vie. Alors, quelqu'un a dit ceci, j'aime beaucoup cette phrase, « On devrait donner à Jésus-Christ la même place dans notre cœur que celle qu'il détient dans l'univers. » Nous sommes à peu près attachés à vos ceintures, nous sommes en train à peu près de circuler à 30 mètres par seconde dans l'espace. Il y a des milliards d'étoiles. Vous savez que le plan elliptique, la Terre, qui est à une inclinaison, si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que j'étudie ça, 23 degrés, 27 minutes, à un degré ou demi-degré près par rapport au plan elliptique, on serait complètement ou congelé ou brûlé. C'est Dieu qui maintient tout cela. On n'a pas le temps de lire ça ce matin, je pense, mais en Colossiens, moi, il y a un passage qui me passionne. C'est de démontrer par les Écritures que Jésus-Christ est celui qui a tout créé. Mais non seulement il est celui qui a tout créé, mais il est le but de la création. Mais il est aussi l'agent de la création. Autrement dit, si nous sommes encore vivants, si nous pouvons manger aujourd'hui, boire, bouger, etc., c'est à cause de lui. Nous dépendons entièrement de lui. Alors, tout le monde ne le réalise pas. C'est pour ça que nous allons évangéliser à Québec, Espoir Québec 2008, pour amener les gens au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils réalisent qu'ils sont des créatures de Dieu et qu'ils peuvent devenir des enfants de Dieu. Dans ce texte ici, si vous avez remarqué, il est écrit en Marc chapitre 8 que celui qui voudra gagner sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Il y a un principe ici, c'est qu'en fait, en renonçant, nous gagnons. C'est bizarre, ça. La perte que nous avons à nos propres yeux de nos vies devient un gain pour Dieu, ainsi il est glorifié, et devient le but de Dieu pour nous d'être ses disciples. Si alors est écrit, que donnerait-il un homme en échange de son âme? Et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alors, je me souviens, jeune étudiant, je sortais d'études, alors je rêvais d'être, je vous le dis, un grand architecte comme Frank Lloyd Wright, ou etc., des gens que j'aimais bien étudier. Et puis un jour, Dieu m'a frappé à la porte de mon cœur. J'étais en train de dessiner, il m'a dit, Michel, tu sais, il y aura toujours des architectes sur terre. Mais toi, est-ce que tu veux être mon serviteur pour me servir en regard de l'éternité? Je me vois encore dans ma chambre, avec ma table à dessin, en train de dessiner, et Dieu me parlant. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes de Dieu, qui que nous soyons. Je ne dis pas qu'on doit tous abandonner notre métier, ce n'est pas ça que je dis. Mais l'idée, c'est que Dieu nous appelle à le servir et peut-être à perdre ce que nous semblions vouloir absolument gagner. Vous savez, un jour, Hudson Taylor se promenait, alors qu'il faisait des études de médecine pour se préparer à aller en Chine. Vous avez certainement lu sa biographie. Et un jour, il se promenait, et après avoir calculé dans sa chambre que pour ses études, son mois, etc., pour ses dépenses personnelles, nourriture, etc., il lui restait qu'une pièce, une couronne, hein, on appelle en Angleterre. Il a mis ça au fond de sa poche. Voilà, c'était sa banque, le fond de sa poche. Et puis, il s'est promené, il allait souvent visiter des gens. Et puis, il tombe dans une famille où le père de famille dit, écoutez, ma femme est malade, il faut absolument que vous l'aidiez. Est-ce que vous avez un moyen quelconque pour acheter des médicaments, etc. Et Hudson Taylor a eu un combat terrible parce qu'il avait tout ce qu'il possédait dans sa poche. Mais c'était la garantie des jours à venir pour manger, vivre, etc. Et de voir cet homme dans la misère, cette épouse souffrante, alors il a mis la main dans sa poche, il a tourné quelque part plusieurs fois cette pièce dans ses mains, et puis finalement, il a décidé de donner cette pièce, tout ce qu'il possédait, à ce monsieur pour son épouse. Et parfois, ce qui nous semble être tellement important dans nos vies, nous l'investissons dans un coin de banque, au fond de nos poches, vous comprenez l'illustration, et nous pensons que là, c'est ma sécurité. Jusqu'au jour où Dieu nous visite, il nous demande de donner ce qui semble être le tout dans nos vies. Vous savez, Hudson Taylor, une couronne, ce n'était pas beaucoup, il n'était pas bien riche. Mais parce qu'il a donné tout ce qu'il possédait, Dieu un jour lui a donné la Chine. Il est parti en Chine, il a amené des âmes au Seigneur par milliers. Hudson Taylor un jour a prié pour que 10 missionnaires partent en une année d'Angleterre. Et c'était à l'époque où les missionnaires partaient vraiment par la foi, même parfois ils partaient avec leur cercueil comme valise. Ils n'étaient pas sûrs de revenir. C'est une histoire vraie, cela. Et un jour, il a prié pour que 100 missionnaires partent en Chine. Et Dieu l'a exaucé, la même année. Voyez-vous, ce qui nous semble être notre tout, si ça devient rien devant Dieu, Dieu le multiplie à sa gloire. Pensons à ça, réfléchissons à cela. J'aimerais vous donner une anecdote brièvement. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai, au fait. Ah mince, alors. Alors, une illustration brève, j'ai un ami qui était assez aisé, qui vivait de beaucoup de choses, mais qui est décédé finalement à 34 ans, et vous dire que ses parents extrêmement riches auraient pu donner tout ce qu'ils possédaient pour essayer de sauver leur fils, et finalement il est mort, à l'âge de 34 ans, laissé une épouse, des enfants, mais voyez-vous, ce n'est pas l'argent qui achète tout, notamment la santé, et ces gens-là, malheureusement, n'ont pas encore donner leur cœur au Seigneur, mais ils auraient dû lire Marc chapitre 8 et voir que ce n'est pas parce qu'on gagne le monde qu'on a gagné l'éternité loin de là et le bonheur. Comment renoncer à soi-même? Alors, j'ai regardé un commentateur que j'aime bien, un pasteur suisse de Neuchâtel, pas mal d'années d'ailleurs, Frédéric Godet, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a dit ceci, renoncer à soi-même, c'est se renier à soi-même. C'est dire adieu à son moi, c'est-à-dire à sa propre volonté, ses intérêts personnels et temporaires pour prendre les intérêts éternels du Seigneur à cœur. Autrement dit, c'est mourir à soi-même. Et là, je vous invite à tourner dans un autre texte, en Jean chapitre 12 et au verset 24. Vous savez, c'est incroyablement extraordinaire la parole de Dieu. Hein, comment toutes choses se mettent ensemble et comment elle est riche d'enseignements et ne se contredit pas, mais au contraire accentue ce que Dieu veut nous dire. Alors, en Jean chapitre 12 et verset 24, il est écrit, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, car celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez, quand Jésus parle ici de service, il parle avant d'un principe qui est très fort, c'est que c'est la mort qui engendre la vie. Le grain doit mourir en terre sous l'effet de l'humidité, la chaleur, pour donner naissance à une tige qui va pousser et porter son fruit. Mais il faut que le grain meure. Si le chrétien meurt, il a la vie. S'il meurt à lui-même, il est rempli du Saint-Esprit. Hein, comme Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans la mesure où il meurt, il laisse vivre Christ en lui, sa vie porte du fruit. Je me souviens quand j'ai essayé, alors j'ai fait ça très rarement dans ma vie, essayer de planter certaines choses. Mais tout jeune, qu'est-ce que j'étais pressé que ça pousse. Alors à force de gratter la terre, finalement je détruisais la semence, ça ne poussait pas. Ou quand ça commençait à pousser, j'ai presque envie de tirer pour que ça pousse plus vite. Mais vous savez, le principe de la mort, c'est mourir. Tant qu'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de vie. Et Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Pensons à cet exemple parfait de ce principe. C'est quand je meurs que je vis. Alors, est-ce que nous sommes prêts à mourir? Est-ce que nous sommes prêts à mourir à ce qui est devant, à ce qui est autour de nous, etc., pour servir le Seigneur face à une grande campagne d'évangélisation qui est unique dans l'histoire, au moins de la ville de Québec, je vais dire. Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nos intérêts personnels et à se consacrer pour gagner les âmes? Comment peut-on laisser les gens aller en enfer? Je me souviens prendre une anecdote ici, quand il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez su, après un an, je crois, à peu près, de construction ici, il y a eu quelqu'un qui a mis le feu au bâtiment. Ça ne sent plus maintenant, heureusement. Hein. Mais il y a eu un pyromane qui a mis le feu à l'hôtel de ville, qui a mis le feu à Manoir Montmorency, puis il a eu la bonne idée de finir ici. Bon. Mais il a mis donc un cocktail Molotov dans la petite salle qui était à l'angle, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Alors, notre chère sœur ici m'appelle et me dit, « Monsieur Viguier, à 4 heures du matin, il faut vous lever, il y a le feu à l'église. » Je dis, « Comment ça, il y a le feu à l'église ?» Je dis, « Non, écoutez, c'est une blague, ça. » Elle me dit, « Non, non, j'ai une amie qui a écouté à la radio, il y a le feu à l'église, allez-y. » Je dis, « Écoutez, non, que me réveiller, c'est une blague, c'est mauvais goût. Je vous dis qu'il y a le feu à l'église, monsieur Viguier. » J'étais à moitié endormi, vous comprenez, à 4 heures du matin. Et alors, je me suis levé, j'ai mis mon pantalon sur mon pyjama et je suis arrivé ici. J'avais jamais vu autant de monde à l'église. Il y avait des gyrophares partout, partout, la police, les pompiers. J'arrive ici, c'était tout noir. Le bar, Sado, tout le plafond suspendu à terre. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a le feu à l'église, il y a du monde à l'église. C'est la même chose, frères et sœurs, dans nos vues. Qu'il y a le feu, nous attirons quelque part. Mais nous devons mourir, être consumés. Vous savez, les sacrifices dans l'Ancien Testament, ils étaient sacrifiés entièrement, brûlés entièrement. Et parfois, nous n'aimons pas mourir entièrement à nos vies. Mais mourir, c'est vivre. Alors, on l'a compris ou recompris ce matin. J'aimerais vous lire ce qu'a dit un missionnaire, Henri Martin, qui dit ceci, « Seigneur, ne permets pas que ma volonté se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m'arriver de l'extérieur, mais comme consistant entièrement dans l'accomplissement de ta volonté. » Alors, il faudrait le relire, le reméditer, mais ça veut dire que quelqu'un, un jour, a décidé de donner sa vie. Vous savez, John Knox, il passait des heures dans la prière. Et un jour, il a crié à Dieu, dans l'agonie de sa prière, « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Savez-vous quoi? Dieu lui a donné l'Écosse. Il y a eu un réveil tellement profond que les bars, les brasseries se fermaient et les gens allaient au culte le dimanche, etc. Et l'Écosse a connu un grand réveil spirituel. Est-ce que vous avez déjà prié, vous, « Seigneur, donne-moi mon père où je meurs. Donne-moi ma mère où je meurs. Donne-moi mon conjoint où je meurs. Donne-moi mon fils ou ma fille où je meurs. Donne-moi Québec où je meurs. Si vous avez cette prière dans votre cœur, Dieu va vous utiliser. Vous allez le glorifier dans votre vie. Et c'est Dieu qui va le faire en nous. Ce n'est pas nous. Mais nous devons nous laisser consumer par le feu divin. Et arriver à Dieu humblement et dire, Seigneur, je n'ai qu'une vie à vivre. Me voici. Envoie-moi. Est-ce que vous allez être prêt à vous engager dans cette campagne d'évangélisation, dans le salut des âmes? Oh, ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas que demain. C'est tous les jours qu'on doit évangéliser. Mais est-ce que votre cœur brûle et est passionné pour le salut des âmes? Dieu cherche un homme, une femme, un intercesseur, ses enfants, pour les réunir à sa gloire et amener le salut parmi nous. Amen.
Merci beaucoup, Michel.